et bienvenue sur l'émission de La Voix est libre. La Voix est libre, une émission de l'association Picassoft qui a pour enjeu de sensibiliser et de former les citoyens aux enjeux du numérique et qui héberge des services web respectueux de la vie privée. Bonjour à vous. Je suis avec Romain, Martin, Quentin et Stéphane de Picassoft. Salut.
Bonjour.
Salut.
Salut, salut.
Et aujourd'hui, c'est une émission un petit peu particulière, hein, confinement oblige. On est tous à distance, donc personne n'est au studio. Mais on est tous ensemble depuis chez nous et on utilise un merveilleux outil qui s'appelle Mumble et duquel on reparlera un petit peu plus tard. Bon, tout le monde s'entend bien, c'est bon ?
Oui, c'est bon.
Et bah, oui, c'est parfait.
Et on est tous là, super. Quentin qui est très très loin, de l'autre côté de l'Atlantique, mais qui est avec nous tout de même. Alors aujourd'hui, on va parler bien du contexte, hein, donc on va parler des cours qui se font en ligne maintenant, on va parler des outils numériques qui nous permettent de poursuivre des cours à distance. Quoi de mieux que de montrer l'exemple. Là, on est tous à distance sur Mumble. On va montrer qu'on peut utiliser Mumble, entre autres, pour poursuivre les enseignements à distance. Alors, de quoi on a besoin pour faire des enseignements à distance ? D'abord, de maintenir la communication. Et pour vous, de quoi on a besoin pour poursuivre les cours ?
Ah, tu nous lances là, Audrey, c'est ça?
Ouais, on lance l'interaction, ouais.
du point de vue de l'enseignant, puisque ici je peux témoigner du point de vue de l'enseignant, ça consiste à faire ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire pouvoir continuer à transmettre des informations et idéalement d'utiliser au moins un petit peu l'oral, et puis de transmettre des documents, donner des exercices. Alors on va voir après, je crois que ça peut se faire avec des outils simples. Peut-être d'un point de vue de l'étudiant, de l'élève, les autres.
Bah, du point de vue de l'élève, on a besoin, à l'inverse déjà d'écouter le prof, de pouvoir lui poser des questions, de ses réponses aux exercices, puis de recevoir des informations aussi, donc des informations qui peuvent être données en direct ou qu'on peut retrouver éventuellement plus tard. On a aussi besoin d'échanger et de collaborer avec d'autres étudiants pour des travaux en groupe, par exemple.
Ouais. Donc en effet, voilà, c'est différents moyens de communiquer. On a la conversation en direct ou pas, à l'oral ou à l'écrit. Enfin voilà, c'est différents moyens de le faire. Et pour ça, donc on a besoin de plusieurs outils qui nous permettent de faire différentes choses. Alors en premier, pour maintenir le contact, pour envoyer des messages importants à un maximum de personnes. On a peut-être un premier outil qui nous vient en tête en premier.
Oui, exactement, on a le mail. Donc le mail, c'est quelque chose qu'on connaît tous, qui est là pour dépanner, qui est pratique comme il est. Donc c'est un outil classique, tout le monde a déjà envoyé des mails, certains l'utilisent même tous les jours. Mais ce mail a plusieurs inconvénients. Déjà, il n'est pas fait pour échanger massivement des fichiers, donc par exemple dans le cadre d'exercice, il peut ne pas convenir. Aussi, il n'est pas fait pour les échanges synchrones, donc on ne peut pas échanger tous en même temps avec le mail. Et ce n'est pas non plus un moyen qui est à 100% fiable, c'est-à-dire que dans la tonne de mails qu'on peut recevoir tous les jours, il est possible qu'un mail n'ait pas été lu, et tant qu'on n'a pas eu de réponse qui accuse réception, on ne peut pas être sûr que la personne a lu le mail. En plus, il est très chronophage de recevoir plein plein de mails et on a de nombreux destinataires, de tous les trier, de récupérer les informations dans chaque mail. Il y a aussi quelque chose qui est très agaçant sur les mails, c'est ceux qui ne savent pas utiliser la fonction répondre à tout. Qui spam en fait un peu les boîtes mails de tout le monde. Donc pour un cours, on peut imaginer peut-être un outil qui permet la communication synchrone et qui serait du coup peut-être un peu plus adapté.
Et oui, Romain, merci pour cette belle transition. Effectivement, on l'a dit, le mail, c'est quelque chose qui peut être adapté pour faire des annonces, peut-être pour pouvoir diffuser une information d'un seul coup, mais en revanche, elle n'est pas très adaptée pour les groupes de travail et pour pouvoir continuer l'interaction dans le cadre d'un cours. Donc, ce qu'on peut faire à la place, c'est utiliser un chat ou de la messagerie instantanée. C'est une sorte de substitut au mail, hein. Finalement, c'est toujours quelque chose d'écrit, mais qui permet de mieux organiser les échanges au sein d'un groupe. Donc, en particulier, on est sur un fonctionnement synchrone, c'est-à-dire que dès lors qu'un un message est envoyé, on peut avoir l'assurance que tous les autres participants le reçoivent. On peut aussi, dans certains cas, voir quand est-ce qu'ils l'ont vu, et on peut voir directement leur réponse. Donc, ça permet de, par exemple, poser des questions et d'apporter des réponses autour d'un exercice très donné par le prof. Et vous voyez bien que si on est centré au même endroit, parce que du coup, le chat, c'est quelque chose qui, en général, va être centralisé, contrairement au mail où chacun va avoir sa petite boîte mail son coin, et eh bien on pourra voir directement les questions de chacun, et donc ainsi pallier au problème de ce fameux répondre à tous dont on a parlé. Donc aussi, on peut mentionner quelqu'un en général dans les services de chat, directement l'interpeller, qui permet donc ah oui, donc ces systèmes de mention, pardon, permettent de notifier les gens sur leur téléphone ou par mail quand on a besoin qu'ils voient l'information rapidement. Mais bon, on se retrouve avec quand même le même souci des gens qui ne regardent pas tout le temps leur mail. Et puis enfin, on peut séparer, segmenter différents espaces sur les chats pour avoir, par exemple, un groupe de travail qui va travailler sur un exercice dans son coin. On peut avoir des groupes de contrôle d'accès afin de permettre à certains d'accéder à des informations et pas à d'autres, etc. Donc, comme pour le mail, on ne va pas l'utiliser comme un système de partage de fichiers. Donc pour le mail, c'est notamment pour des raisons écologiques, mais aussi parce que c'est simplement pas pratique de retrouver des fichiers dans un historique de conversation qui serait très long. Mais bon, c'est très difficile, évidemment. On va expliquer toutes les fonctionnalités d'un service de chat à l'oral, mais je pense que vous voyez l'intérêt de pouvoir avoir cette communication synchrone et organisée. On va simplement donner un exemple de logiciel libre qui fait ça. Et donc, par exemple, Picassoft, on héberge une instance du logiciel libre de chat qui s'appelle Mattermost. Et donc, vous avez à votre disposition, hein, évidemment, gratuitement, ouvert à tous, un outil de chat à l'adresse team. team.soft.net, et vous trouverez la documentation et les bonnes pratiques qui s'y rapprochent, celles que j'avais commencé à esquisser, à l'adresse doc.picassoft.net. Et donc, si on veut se rappeler davantage d'un cours en présentiel, bien sûr, c'est sympa l'écrit, mais on a aussi besoin d'outils pour se parler, et plus précisément pour communiquer à l'oral de manière simple, le plus souvent de plusieurs, comme ça peut être le cas pour un prof.
Et c'est là-dessus qu'intervient surtout les questions de audioconférence et de visioconférence. Donc, pour parler visioconférence, sur la visio, il y a à la fois la conversation audio et vidéo. Et sur la vidéo, ça peut être soit des personnes, mais ça peut être aussi une manière de collaborer sur des documents en les montrant aux autres à distance, même si ce n'est pas la manière la plus efficace de le faire. Et l'outil libre, pas le plus utilisé aujourd'hui, c'est Jitsi. Et donc, avec la crise actuelle, il y a beaucoup de monde qui s'est jeté sur les instances Jitsi déjà présentes, par exemple celle de Renater, qui est celle donc de l'enseignement supérieur en temps normal, qui s'est retrouvée complètement blindée. Et l'intérêt de cet outil, c'est surtout de faire une réunion virtuelle entre quelques personnes. Et donc, ça marche très bien quand on est 2, 3, jusqu'à 5. Au-delà, ça peut être compliqué. Et donc, on a parlé aussi donc, sur cette charge des instances déjà existantes. Et donc, pour pallier à ça, il y a plein d'associations un peu partout qui ont lancé des instances Jitsi pour répartir plus la charge. Il y a donc Framasoft, qui est l'association mère des chatons, qui a fait une liste de toutes ces instances. Donc, si un serveur semble en difficulté, choisissez-en un autre. C'est tout l'intérêt du collectif des chatons.
Oui, je précise, hein, on a réutilisé le mot d'instance, on essaye de le réexpliquer un petit peu à chaque fois, mais Jitsi est donc un exemple de logiciel libre, et en fait, il peut être installé sur plusieurs serveurs, plusieurs ordinateurs. Et évidemment, si on se connecte tous au même serveur, c'est ce que tu nous as expliqué, Martin, et bien ce serveur va être en difficulté, il n'arrivera pas à répondre à tout le monde. D'où l'idée d'avoir aujourd'hui plein de copies du même logiciel sur plein de serveurs. Et encore une fois, ce qui est cool, c'est que comme c'est un logiciel libre, on a le droit de le faire.
C'est ça. Et l'intérêt aussi, du coup, de reproduire une situation de discussion à peu près normale, mais elle a un gros inconvénient aujourd'hui. C'est les gourmands en bande passante et surtout en ressources. Et à partir du moment où il y a beaucoup de monde qui sont présents dans une conversation, ça pose aussi d'autres inconvénients, typiquement où, dans le cadre d'un cours, par exemple, il y a peu d'intérêt à ce que le professeur voit tous les cas de tous les élèves en train de le regarder. Alors que l'inverse a un intérêt.
Oui, tout à fait, Martin. C'est vrai que La vidéo n'a pas forcément d'intérêt et donc a posé pas mal d'inconvénients, donc de surcharges, etc. Et pour répondre aux besoins de faire court, on a simplement besoin parfois donc d'une audioconférence. Ça correspond à une visioconférence, mais sans se voir, donc sans l'image. Et donc c'est comme si on participait tous à un même appel téléphonique et c'est bien pratique pour faire un cours. Alors on peut avoir plusieurs utilisations de l'audioconférence. Quand on est dans un petit groupe, tout le monde peut parler, hein, peut parler, peut avoir l'autorisation de parler spontanément. Et par contre, dans le cadre d'un cours, eh bien, il faut poser certaines règles de répartition de la parole, et notamment le fait de dire, eh bien, on a la professeure qui parle, les autres écoutent, et puis ils peuvent interagir après avec un autre outil, avec le chat que présentait Quentin, par exemple, pour poser des questions et interagir autrement. Donc, c'est vrai que l'outil a un outil qui fonctionne bien pour ça, un outil libre qui s'appelle Mumble. Et Mumble, donc c'est un logiciel qui est très pratique pour ça. C'est un logiciel qu'on appelle de voix sur IP. Et donc ça permet de faire des audioconférences avec plus d'une centaine d'utilisateurs. Et ce que ne peut pas permettre une visioconf à l'inverse. Donc voilà. Et Picassoft vient d'ouvrir justement une instance de Mumble sur son serveur. Et donc c'est l'instance de Mumble, donc on peut la trouver à l'adresse voice.picassoft.net. Et puis on a pareil toute une documentation pour suivre ça sur doc.picassoft.net. Alors ça a été un petit peu toute une aventure d'installer un petit peu dans l'urgence cette instance-là. Tout le monde s'y est mis hein, pour la doc et l'installation. Et puis finalement maintenant l'instance fonctionne bien, on a pas mal de cours, voilà, une cinquantaine, combien? Non, 20-30 cours qui sont sur Mumble à peu près.
Ah, j'étais sous les yeux là, 10, 20, 30, 40, ouais, facile, ouais.
C'est ça, hein? Et puis des tests ont été faits, et puis finalement voilà, ouais, c'est entre 100, 130 personnes, peut-être le record du nombre de personnes qui ont pu interagir et faire cours en même temps. Et donc on peut dire que c'est une réussite. Hein. Stéphane, tu veux en parler maintenant de ce que tu as essayé de faire et ce qui a bien marché pour ton cours à toi?
On pourra en reparler un petit peu après. On va laisser peut-être Romain et Quentin nous présenter les derniers outils. Je voulais par contre faire un petit coucou à Kian, qui a été voilà, à l'origine de l'installation vendredi dernier, si je dis pas de bêtises. Ça, c'est un vendredi d'avant, ouais, quand même. Enfin, il y a une semaine. Et puis juste rappeler, tu as donné l'adresse, mais donc voice.picassoft.net, voice.picassoft.net.
Ouais, tout à fait. Et puis tu as raison, ouais, de bien souligner le travail de Ken qui a été hyper actif et qui a monté ça en attendant vraiment record, ouais.
Est-ce que notre instance Mumble peut dire 15 millions d'utilisateurs comme les serveurs de l'éducation nationale ou pas? Moi, j'ai hâte de savoir.
15 millions, exagère, il s'était engagé sur 7 millions.
Ah, mauvaise
Pas de
langue.
polémique, pas de polémique. Bon, nous, on a estimé pouvoir, enfin, Kian nous a estimé tenir à 200 sans problème et probablement atteindre les 500. Et pour info, Framasoft a aussi ouvert une instance et eux se sont engagés jusqu'à 6 500. Donc, à voir ce que ça donne.
Ah ouais, ça fait bah ouais, tout le monde se mobilise, tout le monde essaie de monter des instances, de tester, de documenter et tout ça. Et ça marche bien de voir cette réactivité-là de la part de différents chatons. Mais oui, t'as raison, Stéphane, on n'a pas fini sur les outils. Alors, on disait qu'en parallèle des outils qui permettent de communiquer à l'oral, on peut en utiliser qui permettent de communiquer en direct à l'écrit. Est-ce que Romain, tu veux nous en présenter un autre pour faire ça?
Oui, totalement. Donc, on a présenté à l'écrit le système de chat. On peut aussi s'attarder sur les pads. Qu'est-ce qu'un pad? C'est un document, comme ce que vous pouvez avoir sur un traitement de texte, qui va permettre de faire de l'écriture collaborative. Et il existe plusieurs logiciels qui permettent d'aider à faire ça. Par exemple, on a Etherpad, mais il y en a plein d'autres. Les usages possibles du pad dans un cours, ça pourrait être par exemple de diffuser facilement de l'information, donc des plannings, une liste de devoirs à faire, des exercices conseillés, des exemples, etc. Ça peut être aussi un espace de prise de notes à plusieurs, donc du partage d'idées, de la rédaction collaborative, etc. Attention, il faut prendre en compte que l'URL du pad est accessible à tout le monde et donc que ces pads doivent être considérés comme publics et il ne faut pas y déposer d'informations sensibles comme par exemple des mots de passe. Et encore là, il y a une bonne nouvelle, chez Picassoft, nous hébergeons des pads qui sont accessibles à l'adresse pad.picassoft.net. Et tout le monde peut créer un pad en lui donnant simplement un nom qu'on pourra ensuite retrouver dans l'URL plus tard. Et c'est cette URL de partage qu'on partage aux autres pour pouvoir écrire à plusieurs.
Il n'y a pas que le pad aussi de Picassoft, puisqu'il y a d'autres, il y a une autre association de l'UTC qui en propose aussi, qui est Rhizome, qui utilise un autre logiciel. Donc là, on a parlé d'Etherpad. Bon, en étant un peu technique, là, ça s'appelle un code IMD, donc qui est un peu plus puissant, un peu différent sur certains aspects, et qui est disponible aussi sur pad.rhizome-fi.net. Mais il y en a d'autres, comme par exemple celui de Chapril, pad.chapril. Org, mais il y a beaucoup beaucoup d'instances existantes.
Et il faut vraiment pas hésiter, hein. Ces jours-ci, il y a un certain nombre d'hébergeurs qui rencontrent quelques soucis. Nous-mêmes, à Picassoft, notre service de pad est un petit peu bousculé. Donc, si jamais à un moment vous voyez qu'un service semble un petit peu en difficulté, eh bien, faut pas hésiter à aller en chercher un autre. Et si vous avez envie de rester dans un cercle de confiance, eh bien, vous pouvez notamment aller regarder les chatons ou toute autre association que vous connaissez à côté de chez vous.
Oui, tout à
Oui,
fait.
puis... Oui,
Ouais,
pardon.
Quentin, tu veux te lancer sur un dernier outil, peut-être, pour
Ouais,
partager.
tout à fait, peut-être un peu précipitamment, si tu avais quelque chose à rajouter, Audrey, bien sûr, je t'en prie.
J'y reviendrai plus tard. Non, non.
Ok, bah du coup, et le dernier outil qu'on voulait présenter, c'est les outils de cloud, hein, de nuage, afin de partager des fichiers. Parce qu'on l'a dit, aussi bien pour le mail. Pour des raisons écologiques, hein, la duplication des fichiers sur l'ensemble des boîtes de réception des gens, ou bien pour des raisons pratiques, tout simplement parce que c'est difficile de retrouver un fichier qui aurait été perdu dans un flot de conversation et qui aurait été envoyé il y a plusieurs jours. Eh bien, il existe des outils pratiques pour pouvoir partager des fichiers. Et je sais que ça peut être très pratique de partager des fichiers dans un contexte de cours, par exemple, on a dit des TD, des exercices, des images, des rendus, des rapports et ce genre de choses. Donc, le cloud, c'est une bonne réponse à ça. Alors, par cloud, évidemment, ça veut tout et rien dire, hein. Le cloud, on l'a dit dans une autre émission, c'est tout simplement l'ordinateur de quelqu'un d'autre. Donc, on a deux types de solutions qui ont chacun leurs usages pour pouvoir partager des fichiers. La première solution, c'est de mettre en position des autres un fichier, mais de manière temporaire. On va simplement déposer le fichier sur un site web et ensuite les autres, à partir d'une URL, d'une adresse, vont pouvoir le récupérer. Et en général, on va simplement poster un lien vers ce fichier, par exemple dans le service de chat. Ça, c'est vraiment pour les choses temporaires parce que ça a les mêmes problèmes d'historisation, de retrouver les liens qui ont été envoyés. Mais pour un petit truc temporaire, ça peut être pratique. Donc on peut par exemple utiliser Firefox Send. Send.firefox.com, évidemment, sur les problématiques de vie privée et de liberté, ce service fait très bien l'affaire. Et donc, je proposais de mettre les adresses sur un chat, sur le chat, mais évidemment, il y a mieux, on peut même mettre les adresses sur un pad afin de centraliser toutes les adresses des différents fichiers qui auraient été envoyés. Mais en revanche, une solution plus pérenne et qui est plus puissante, c'est l'usage d'un serveur dédié à un cloud, comme par exemple Nextcloud, qui permet de partager un dossier sur le web. Donc typiquement, ça pourrait être comme un dossier que vous auriez sur votre ordinateur, mais qu'on pourrait mettre à disposition de plus de gens. C'est un peu l'équivalent de ce que feraient beaucoup de gens utilisaient, hélas, Dropbox, un service centralisé. C'est un peu le même genre d'idée. Et donc, ce qui est très bien avec les serveurs de cloud comme Nextcloud, comme on l'a dit, il peut y avoir plusieurs instances à différents endroits qui vont chacun pouvoir héberger différents dossiers, mais il est possible de partager un dossier d'une instance avec des gens qui ne sont pas sur cette instance ou avec une autre instance. Donc voilà, il n'y a pas de cloisonnement des différentes instances et ça fonctionne très bien. Donc, nous, par exemple, on s'en sert à l'UTC, hein. Il y a le serveur de Nextcloud de l'UTC qui est accessible sur cloud.utc.fr, mais qui est réservé aux élèves et au personnel de l'UTC. En revanche, d'autres associations, d'autres chatons, par exemple, hébergent des Nextcloud. On donne deux exemples, donc encore l'April, hein, avec son chaton Chapril. Donc, on peut trouver le serveur sur valise.chapril.org. C'est accessible à tous, évidemment, avec OTA. Et chez le chat Zachlys, sur www.zachlys.com/cloud, ce service est payant, hein, libre ne veut pas dire gratuit, si le logiciel est libre, cette instance, l'utilisation de cette instance, de ce service peut-être. Bon, et donc voilà, tous ces services vont fonctionnent bien, il est tout à fait possible d'être chacun sur un service différent, de pouvoir gérer des choses avec les autres. Voilà pour moi.
Et pour revenir un petit peu rapidement sur toute la solution Nextcloud, en fait, c'est qu'elle est aujourd'hui, elle possède pas mal d'extensions qui permettent justement d'ajouter au logiciel de base de cloud, notamment une visioconférence directement incluse dans cet outil, par exemple, et du chat aussi, enfin, permet aussi de se greffer à d'autres outils de collaboration.
Oui, il y a aussi des agendas collaboratifs, il y a énormément de choses, c'est un outil qui est très très complet, bien sûr.
Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que voilà, tout le monde peut piocher un petit peu, trouver les outils qui correspondent vraiment à ce dont il a besoin. Hein. Vous parlez des extensions, etc. On peut trouver, en plus, normalement assez proche de chez soi, donc une structure qui va pouvoir héberger les outils dont on a besoin. Et Quentin, tu finissais par parler de chatons qui hébergeaient des instances de Nextcloud. Et on voit que c'est vrai qu'on a parlé des chatons avec Angie la dernière fois, dans la dernière émission, on en reparle aujourd'hui, on en parle de plus en plus, et c'est vrai que ce sont ces structures qui peuvent se monter très rapidement aussi, mais qui permettent d'héberger vraiment ces services libres-là. Et pour trouver une structure justement qui héberge les outils dont on a besoin en particulier, on vous invite à aller voir sur le site chaton.org, chaton au pluriel, hein, c'est chatons.org, puisqu'il existe sur ce site un petit moteur de recherche, une petite interface de recherche pour trouver le chaton, la structure qui héberge les outils, par exemple un Nextcloud ou un pad ou n'importe quel outil. Et donc cette page-là, c'est permet de trouver le chaton qui pourra répondre à votre besoin. Même une carte pour voir où ils sont, etc. Donc ça permet de voir ça.
Si vous êtes des utilisateurs habituels également de services de Framasoft comme Framapad, eh bien vous verrez que les pages d'accueil de ces services ont été changées et Framasoft demande justement que vous regardiez également les autres instances. Donc par exemple pour Etherpad, il y en a une cinquantaine, je crois, qui sont référencées, dont 26 qui sont référencées par Framasoft comme étant de confiance. Framasoft, c'est où il vous renvoie. Donc ça peut être aussi quelque chose à faire si vous êtes habitué à utiliser un service de Framasoft.
Ouais, tout à fait. Et bien, alors bon, là on a fait un petit tour d'horizon. Est-ce que, alors on peut, alors pas passer à la pratique, on y est hein, depuis tout à l'heure, mais peut-être qu'on peut vous proposer un premier retour d'expérience directement. Donc Stéphane, toi tu as essayé donc d'utiliser plusieurs outils en parallèle justement pour poursuivre tes cours à toi. Comment est-ce que tu as réussi à faire ça toi la semaine dernière?
Alors, d'abord, c'est avec tout ce qu'on vient de raconter avant, faut voir que bah du coup, c'est pas très difficile. Et une de mes idées, c'était aussi d'essayer de le faire justement avec des outils assez simples. Alors, je précise tout de suite, hein, il y a plein de collègues en ce moment qui font plein de trucs de plein de façons différentes. Donc, il s'agit pas du tout de montrer mon expérience comme étant particulièrement plus importante ou quoi que ce soit. Juste effectivement de témoigner. Et donc notamment vendredi dernier, eh bien on a réussi pour mon cours de base de données à être plus d'une centaine ensemble sur Mumble et sur Mattermost. Alors je vous donne le protocole très rapidement, et puis ensuite si vous avez des questions, on peut compléter un peu. Mais l'idée tout simple, hein, bah au départ ça commence par un mail pour donner rendez-vous à tout le monde, leur préciser les outils qui devront être installés ou les comptes qui devront être créés. En l'occurrence ici pour utiliser Mumble, faut installer un petit logiciel sur son ordinateur, et pour utiliser Mattermost, il faut ouvrir un compte sur l'équipe de Picasoft. Ensuite on peut également utiliser soit un petit site web statique si on sait faire ça, Ou soit, comme l'a dit Quentin juste avant, mettre en ligne quelques fichiers sur un cloud pour que les étudiants aient le plan du cours, des images éventuellement qu'ils devront regarder, les énoncés des exercices, etc. Et donc ensuite, eh bien, je me suis basé sur Mumble d'un côté et Mattermost d'autre. Alors Mumble, exactement comme on le fait là, une personne parle, alors en l'occurrence moi, l'enseignant parlait, et donc je donnais des consignes, commentais des contenus. Et les étudiants, bien sûr, n'interagissaient pas en même temps à l'oral. À plus de 100, ça aurait été totalement inefficient. En revanche, ils pouvaient me poser des questions sur le chat donc de Mattermost en parallèle. Et donc, bien moi, je lisais leurs questions et en fonction de ça, je pouvais compléter mes explications si quelque chose notamment n'était pas clair. À noter également que lorsqu'un étudiant posait une question, par exemple que j'avais du mal à comprendre sur Mattermost ou qui me paraissait un peu compliqué, j'avais tout de même la possibilité de lui donner la main à l'oral. Donc je disais, tu peux parler. Et donc à partir de ce moment-là, il prenait la parole et il expliquait sa question à l'oral. Et en général, ça permettait d'aller plus vite. Juste un ou deux éléments, puis j'en termine là, mais il est important de mettre en place, je viens en quelque sorte d'en citer une, mais des règles assez rigoureuses, mais encore une fois, comme quand on est en présentiel. Par exemple, sur le chat, j'avais imposé que tout le monde ne parle que du même sujet et qu'il n'y a pas des gens qui se mettent à poser des questions alors qu'il y a déjà une question qui est en cours ou qui se mettent à répondre à autre chose, parce qu'évidemment, sinon on se perd totalement dans le fil d'information. On l'a vu à l'oral, une personne qui parle à la fois, c'est aussi ce qu'on essaie de faire aujourd'hui pour cette émission de radio, par exemple. On aurait pu également aider des outils que j'ai pas utilisés dans cette expérience précise, mais que d'autres collègues ont utilisés. Par exemple, demander à un groupe d'étudiants, pourquoi pas deux ou trois, de faire un petit compte rendu, de tenir des notes partagées, par exemple. Voilà, je ne sais pas si vous avez des remarques, hein, on aurait pu en parler beaucoup plus longuement, mais ça donne quelques éléments.
Ouais, déjà, c'est voilà, on a un exemple de mise en place d'outils en parallèle qui a très bien fonctionné vendredi. Donc, ça va donner espoir après pour la suite, après pour que ce genre de pratique soit aussi adoptée par un maximum de personnes, puisque pour toi, en l'occurrence, ça a très bien marché.
Et je précise également quelque chose d'important, donc je ne suis pas du tout le seul, hein, encore une fois, une collègue la veille avait fait également quelque chose à 75, il y en a plein qui font des choses avec des groupes de plusieurs dizaines de personnes, et donc il n'y a pas besoin d'être particulièrement ni impliqué, ni d'avoir des compétences techniques spécifiques pour faire ce genre de truc, c'est vraiment juste une question pour repenser un tout petit peu son cours, quoi.
Ok, ouais, le changement de pratique. Ben, on va tous s'habituer. Alors, pour le quiz, qui veut se lancer pour lancer le quiz aujourd'hui? Romain, ça te tente?
Eh ben Romain, il a...
On m'entend, c'est bon?
On t'entend,
On t'entend bien.
Donc je vais le faire exactement. Donc je suis étudiant d'un cours à distance. Je dois réaliser un mini-projet à trois sur les low-tech. Et je choisis un des sujets listés sur le pad collaboratif, bien évidemment pour signaler aux autres groupes que le sujet n'est plus disponible, et on se met au travail. Donc parmi les propositions que je vais énoncer, il y aura un intrus, une proposition qu'il ne faudra pas appliquer. Donc la première proposition est écouter les consignes orales du prof pendant une audioconf sur Mumble et poser ses questions par écrit sur Mattermost. La deuxième proposition, c'est échanger à trois directement par visioconférence avec Jitsi et prendre des notes. La troisième, c'est s'envoyer mail les comptes rendus des visioconférences et des captures d'écran. Et la quatrième, c'est déposer notre rapport et nos livrables sur un cloud.
Ok, merci Romain. Eh bien, on va se laisser un petit temps de réflexion là-dessus. En attendant, on va lancer la musique. Aujourd'hui, on vous propose un petit peu de folk parce qu'on est bien chez soi et ça s'appelle Home Sweet Home. C'est de Stuart Evans en licence CC BY.
Gonna find my way back home, back to where I most belong. Feeling like this day will never end. Heading about the place I roam, never feeling quite my own.
get the feeling I don't fit in, but I know that I'll be coming, coming home to you. And you know that I'll be driving, driving home to you. A thousand miles seems far to a man who hasn't fallen quite as hard as I did for you. But it seems with every step I make was a road that I was bound to take, for a journey to wind up here with you, my home sweet home. I would do it all again.
De retour dans La Voix est libre, le titre de la musique a déjà été annoncé. On rappelle juste que l'émission a été enregistrée sur Mumble en remote, donc pour preuve que ça marche. Donc il y avait Quentin qui était au Pérou, Stéphane à Marie-Lamotte, Audrey qui était à Nantes, moi-même j'étais dans l'Aisne et Martin à Marny-les-Compiègne avec le bot musical. Donc pour preuve que ça marche. Pour la réponse au quiz, la proposition qu'il ne fallait pas appliquer, c'était la troisième, s'envoyer un mail, en mail les comptes rendus de la visioconférence et les captures d'écran, puisqu'on a dit que les mails n'étaient pas pratiques pour échanger plusieurs fichiers, ni pour échanger les fichiers d'ailleurs.
Peut-être les liens, Romain ou Audrey ?
Ouais.
Eh bien, je peux le faire.
Vas-y, Romain.
Donc pour les liens, nous avions déjà le lien de notre Mattermost, donc on le rappelle, c'est un service de chat, donc vous pouvez retrouver ce service sur team.picasoft.net, le service de pad que vous pouvez retrouver sur pad.picasoft.net, il y a aussi le pad de Rhizome donc, qu'on avait cité, qui est sur pad.rhizome-fai.org, c'est ça ?
.net.
.net aussi, voilà. On a aussi le Mumble, donc vous pouvez déjà installer le logiciel sur www.mumble.info et vous pouvez rejoindre le serveur de Picasoft sur voice.picasoft.net. Pour la documentation associée à tous nos services, il y a docpicasoft.net et pour trouver un chaton, il y a chaton.org-find.
Super, bien écoutez, je crois qu'on arrive à la fin de cette émission à distance. Merci à tout le monde, merci à vous tous d'avoir fait. Voilà, je suis toute troublée de cette émission à distance. Eh bien, on réessayera un prochain coup, ça a l'air de bien marcher. Au revoir, à la prochaine.
Puis, salut,
merci Audrey.
Bonne journée,
à bientôt, bye bye.